Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Juliette Goertz
et Elisabeth
et bienvenue sur Bac FM. Aujourd'hui, à l'occasion de la 36e édition de la Semaine de la Presse et des Médias à l'École, nous accueillons deux acteurs sur le sujet, avec qui nous allons pouvoir échanger. Ils travaillent tous les deux en tant que coordinateurs pour le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui chaque année organise cette semaine éducative. Bonjour Cécile Dejoie.
Bonjour.
Vous êtes référente académique à l'éducation aux médias et à l'information et coordinatrice CLEMI. Et bonjour Simon Bertin.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire au Collège de Guérigny et référent du CLEMI pour la Nièvre.
Alors le thème central choisi pour cette 36e édition et qui sera donc celui de notre émission radio est « Où est l'info ?». De nos jours, il est de plus en plus difficile de s'informer et paradoxalement, l'information est partout, tout le temps. Il devient donc complexe de discerner l'information fiable et essentielle au milieu de cet ensemble de propositions et c'est justement ce que l'on va voir ensemble. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CLEMI ? Peut-être commencer par vous, Cécile Dejoie.
Alors oui, le CLEMI, en fait, c'est un acronyme. Ça veut dire Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est l'opérateur, en fait, pour l'éducation aux médias et à l'information dans l'éducation nationale. Et ça existe depuis un petit peu plus de 40 ans maintenant. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se préoccupe, en fait, d'éduquer aux médias et à l'information les élèves dans tout leur cursus scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée.
Est-ce que vous souhaitez compléter, peut-être, Simon Bertin ?
Non, je pense que Cécile a tout décrit, hein, ça a plus de 40 ans, et c'est surtout voir que l'éducation aux médias, qui n'est pas une priorité absolue, est quand même malgré tout présente depuis plus de 40 ans, et pourtant à l'époque Internet n'existait pas, encore moins les réseaux sociaux, donc juste dire que il y a des nouvelles préoccupations et le rôle est forcément important. La preuve, vous êtes ici dans ces studios à faire des médias.
Avant qu'on développe sur les activités du CLEMI, pourquoi vous dites que c'est pas une priorité absolue ?
Oh, c'est vague parce que l'éducation a des tas de priorités, donc est-ce qu'on peut mettre une priorité absolue ? C'est un peu vague, j'enfonce des portes ouvertes, mais les professeurs de mathématiques vont défendre les mathématiques, les professeurs de lettres vont dire qu'il est important de bien parler français, ce qui est le cas, de bien parler étranger, et on a une vocation à être une éducation nationale, et nous avons au milieu l'éducation aux médias une portée transversale, donc dans un monde où c'est encore très discipliné. C'est difficile d'avoir une priorité absolue, mais après, on est quand même, je pense qu'on est quand même considéré, Cécile, c'est peut-être plus à Cécile de confirmer, mais on est quand même considéré. La preuve, il y a la Semaine de la Presse et des Médias dont on évoque actuellement.
Mais par contre, on peut rebondir parce qu'il y a déjà une place qui est peut-être intégrée dans les cours avec l'EMC. Vous êtes professeur d'histoire, n'est-ce pas, monsieur ?
Oui, tout à fait. Et d'enseignement moral et civique.
Et du coup, de EMC. Et du coup, quelle place de l'éducation aux médias est intégrée dans les cours actuellement ? Est-ce qu'il serait intéressant, en fait, de créer une matière spécifique à l'éducation aux médias ?
Alors, comme je disais précédemment, mais il faudrait demander aussi l'avis de Cécile, pour moi, c'est une valeur transversale. Il y a forcément un lien avec l'enseignement moral et civique, puisque nous accompagnons de futurs citoyens et par conséquent l'attitude sur les médias et l'attitude qu'il faut avoir à travers les médias, mais aussi l'analyse, l'esprit critique ou comment les utiliser et où chercher l'info, qui est le thème. Bien évidemment, en tant que professeur de MC, on s'y rejoint puisqu'on est là pour former des futurs citoyens et le MI aura sa place à part entière dans le MC dans les prochains programmes, qui vont être mis à jour très, très prochainement.
Peut-être souhaitez-vous ajouter quelque chose, Cécile Dejoie ?
Alors, l'éducation aux médias et à l'information dans les établissements scolaires du secondaire, donc collège et lycée, elle est portée aussi par les professeurs documentalistes, dont c'est la mission, en fait. Hein. Ils sont les maîtres d'œuvre de l'éducation aux médias et à l'information dans les établissements scolaires. Et souvent, ce sont eux qui proposent des projets aussi en lien avec cette EMI aux différents enseignants de différentes disciplines. puisque, comme l'a dit Monsieur Bertin, cet enseignement est transversal. Donc, on peut faire de l'éducation média à l'information en anglais. Par exemple, quand on s'interroge dans un cours d'anglais sur la place des réseaux sociaux dans la communication, ça peut être un thème qu'on étudie en anglais et qui va contribuer à cette éducation aux médias et à l'information. On peut en fait faire de l'éducation aux médias à l'information en maths, quand par exemple on vérifie des infographies, des graphiques qui ont été publiés ou qui sont passés dans des émissions de télévision avec des erreurs mathématiques. Donc c'est une manière de mésinformer souvent, parce qu'en fait l'infographiste n'a pas forcément des bases en mathématiques et fait des erreurs dans les représentations. Donc l'EMI, elle est partout, hein, c'est comme l'information. Et c'est aussi ce qui rend peut-être plus difficile aux élèves de saisir qu'ils sont en train de faire de l'éducation aux médias, à l'information, à travers différentes activités. En fait.
Et peut-être que c'est là qu'intervient le CLEMI. Et du coup, ça va nous permettre d'élargir la question plus globalement aux actions et aux programmes du CLEMI qui sont menés dans les milieux scolaires et avec les professeurs. Peut-être Cécile Dejoie, vous les développez sur les actions.
Alors le CLEMI a plusieurs missions. Une de ses missions, c'est de favoriser en fait l'expression des élèves, l'expression médiatique des élèves, donc d'encourager à la production de médias scolaires, journaux, radio, TV, dans les écoles, les collèges ou les lycées. Sa deuxième mission, qui est en lien fortement avec cette expression médiatique des élèves, c'est de mettre en relation des professionnels des médias, journalistes, photographes de presse, dessinateurs de presse, professionnels de la télévision, etc. Ces professionnels des médias qui peuvent intervenir en classe pour mieux faire connaître leur métier, mais aussi pour accompagner des projets qui sont proposés par le CLEMI, que ce soit au niveau national ou au niveau académique. Et puis, pour que les enseignants, en fait, puissent aussi accompagner les élèves dans toutes ces activités, le CLEMI propose aussi de la formation aux enseignants pour mener à bien ces différents projets. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce temps fort qu'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Tous ces aspects sont présents dans cette semaine de mars.
Peut-être, Simon Bertin, vous voulez rajouter des informations sur la question en tant que professeur.
Moi, je vois l'avantage de l'EMI, donc forcément à travers le CLEMI qui structure et organise différents concours ou manifestations et qui nous apporte une expérience scientifique, hein, puisqu'il y a vraiment un travail avec des chercheurs. Au-delà de ça, c'est l'aspect, moi en tant que professeur qui m'intéresse, c'est l'aspect pratique, de mettre les élèves dans du concret. Et l'avantage de produire quelque chose, la satisfaction, ça reste quand même, je pense, encore un petit plaisir pour mes élèves quand ils reçoivent le journal sur lequel on a travaillé pendant 3 mois, qui est produit. Donc de l'avoir entre les mains, même si ça fait que 8 pages, 12 pages, c'est quand même une satisfaction. Ils ont produit quelque chose, ils ont créé quelque chose. Et je pense que c'est l'avantage d'une semaine comme celle-ci, mais de l'EMI en général, c'est un aspect pratique, de mettre les élèves en pratique, et quelle que soit la discipline d'ailleurs.
D'ailleurs, vous l'avez un petit peu évoqué à travers vos réponses, mais le CLEMI noue des partenariats avec des médias lors de ces journées de la presse et des médias. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en profondeur en quoi il consiste et peut-être des exemples concrets ?
Alors, il existe différents partenariats, hein, ça va de l'aspect national jusqu'à l'aspect vraiment local. Par exemple, si je vais prendre le cas de Guérigny, hein, nous l'année dernière, on a vu une classe olympique média qui avait été mise très en avant avec Bac FM et le journal du centre. Tous les élèves de 5e, donc 70, on avait été invités à France Télé pour aux Jeux Citoyens, à Canal+, avec Astrid Barre et d'autres présentateurs. On avait été aussi au journal L'Équipe, on avait eu un accueil formidable, donc ça c'est à portée plutôt nationale. Mais au niveau local, on a par exemple nous Classe Presse 58, Classe Média 58, donc en partenariat avec le journal du centre, où pendant, depuis le début de l'année, hein, depuis septembre, des élèves plutôt de niveau 4e, dans 6 établissements différents, ont travaillé pour réussir à produire des articles, hein, avec un code journalistique, apprendre l'esprit critique, vérifier l'information, Et surtout, cette semaine, ils sont mis en avant dans le journal du centre, ils sont publiés sur, que ça soit dans le journal papier, mais aussi sur Internet, que ça soit sur les réseaux sociaux, ils sont relayés, et ça, pour nos jeunes, c'est quand même important. Et donc, la semaine de la presse et des médias donc, permet, par exemple, au niveau local, de travailler avec Bac FM, donc ce qu'on est en train de faire actuellement, mais aussi avec le journal du centre, mais aussi avec d'autres radios plus implantées dans le Morvan ou des correspondants locaux.
Le principe en fait, de cette semaine de la presse et des médias à l'école, c'est que d'un côté, les établissements scolaires s'inscrivent pour participer, et de l'autre côté aussi, les médias d'eux-mêmes s'inscrivent pour participer. Et donc, chaque média qui s'inscrit, qui va des grands médias nationaux, des médias locaux, à des médias associatifs, à des médias qui ne sont que sur Internet, vraiment tout type de médias qui souhaitent s'inscrire à la semaine de la presse, va en fait proposer une offre gratuite pendant la semaine de la presse. Alors cette offre, ça va être par exemple de visiter une rédaction ou de visiter en fait des studios, comme en ont bénéficié les classes de Guérini l'an dernier. Ça peut être aussi de rencontrer un journaliste qui vient dans une classe. Ça peut être aussi de bénéficier d'abonnements à des titres gratuits pendant un mois, deux mois ou trois mois, selon l'offre proposée, etc., etc. Donc, les offres sont très variées pendant cette semaine de la presse pour faire connaître en fait le monde des médias dans toute sa diversité, dans tout son pluralisme.
C'est très intéressant de en fait comprendre concrètement ces partenariats, se nouent entre Clémy et du coup différents acteurs. Du coup, ce côté concret est très intéressant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on devrait comprendre un petit peu plus le théorique et peut-être commencer par définir ce qu'est une information, même si la question est pas très facile. Je pense que c'est important, comme c'est une question au cœur de notre échange. Peut-être, Cécile Dejoie, est-ce que vous voulez commencer ?
Alors, l'information, en fait, c'est un mot qui a plein de sens dans la langue française. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est de la définir au sens journalistique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une information au sens journalistique ? Une information, c'est un fait qui va être vérifié par des professionnels, des journalistes dont c'est le métier, pour être ensuite publié et qui va intéresser en fait un large public. Donc c'est un petit peu une définition rapide de ce qu'est l'information au sens journalistique. On dit en fait qu'elle répond à la règle des 5 W en anglais, hein, le who, when, what, why. Pour aller très, très rapidement sur l'information au sens journalistique.
Justement, vous qui participez à l'éducation média, peut-être vous avez eu l'occasion de définir à vos élèves l'information.
Je rebondirai sur les derniers propos de Cécile. Nous, il y a un enjeu pour tous, ça va être la vérification des sources, la fiabilité. Alors, je parle plutôt collège, parce que vous êtes dans la production d'information, la preuve. Derrière votre micro, vous avez créé une émission, vous avez construit votre émission. Donc voilà, vous avez été aussi chercher des informations pour les relayer. Je pense que Cécile a parfaitement défini ce qu'est l'information au sens journalistique. Après nous, je parle de collège, on est vraiment sur déjà la forme de bien contenir les 5 W, hein, le qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi. Et la vérification d'information, puisque l'information est partout, hein, elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur les médias plus traditionnels qu'utilisait ma génération, la presse papier, la radio, la télévision, mais elle est partout. Donc l'information, c'est pas uniquement les médias traditionnels, et c'est là où il y a un enjeu.
Oui, donc vous l'avez bien dit, mais s'informer, ça devient une difficulté du fait justement de la désinformation et donc de cette vérification qui est nécessaire. Notre époque, elle est marquée par une diffusion massive des fake news qui se répandent donc via Internet, les réseaux sociaux et désormais l'IA. D'ailleurs, récemment, les IA génératives ont fait des ravages en recréant des images de personnalités, de leurs voix. Quel regard vous portez sur ce phénomène ?
Alors, depuis l'arrivée d'Internet, en fait, les fausses nouvelles qui existaient déjà avant Internet se sont démultipliées, ont en fait une caisse de résonance énorme et se propagent beaucoup plus vite. Et l'IA générative, on va dire, en rajoute une couche. Hein. Et le risque, c'est que nous tous, les citoyens, on se mette à douter de tout. À rejeter en fait en bloc l'information. Donc, en fait, on ne peut pas lutter contre le fait qu'on s'informe aujourd'hui via les réseaux sociaux. C'est un fait. Mais ce qu'on peut apprendre, c'est à aller chercher l'information et à ne pas être dépendant, en fait, des algorithmes. Et donc de s'abonner volontairement à des titres, comme on le faisait en temps du papier, hein, d'être acteur et de pas se laisser en fait manipuler. Parce que effectivement, si on attend juste que l'information arrive à nous via nos réseaux sociaux préférés, et ben en fait c'est sûr qu'on sait plus démêler le vrai du faux et on est absorbé par tout ça.
Peut-être, monsieur.
Pour résumer, je crois que tout est dit dans le nom. Hein, on est là pour accompagner, c'est éduquer aux médias et à l'information. Notre rôle est d'accompagner au mieux nos élèves, mais comme on essaye de le faire pour tous les champs disciplinaires. Donc, je pense, oui, de l'éducation aux médias et à l'information pour créer des citoyens.
Est-ce que vous avez d'autres exemples de risques qui peuvent être associés à la consommation de l'information en permanence sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être que certains de vos élèves ont pu témoigner de certaines situations de fake news auxquelles ils ont pu être confrontés.
Alors, des situations de fake news, ça c'est sûr, mais aussi des phénomènes d'éco-anxiété, être exposé à de l'actualité qui est assez terrible hein, aujourd'hui, conflits, dérèglements climatiques, etc., de l'information qu'on ne va pas chercher mais qui est partout, bah, ça contribue aussi à développer des troubles anxieux. Donc moi je pense, et c'est ce que défend le CLIMI aussi, c'est qu'il faut retrouver en fait un plaisir à s'informer sur des sujets qui nous intéressent et à être plus autonome, de ne pas se laisser manipuler par la propagande qui peut être venir de menaces étrangères mais aussi de menaces internes. Donc il y a des questions aussi de géopolitique très très importante, ouais, hein, autour de l'information sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'à chaque âge, on va aborder en fait l'éducation aux médias aussi différemment.
Peut-être que du coup vous avez des exemples des choses à rajouter.
Par rapport à l'éco-anxiété, c'est une réalité, hein, ça fait fuir certains jeunes, mais même adultes, hein, je pense qu'on est assez caricatural parce qu'on est dans un monde enseignant, mais ça fait fuir face à une forme d'information. Mais face à une forme d'information, parce qu'il existe des tas de formes d'information. Mais après, les élèves, moi je parle au collège, hein, et j'avais fait de l'école primaire avant, on est là pour essayer de les accompagner, donc justement leur expliquer tout ça. Après, il y a aussi une approche individuelle, et je pense que vous, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un vécu à travers l'actualité qui vous intéressait peut-être. Donc il y a aussi une affinité personnelle face aux médias, mais c'est à nous de rapprocher par rapport à ça.
D'ailleurs, on va peut-être rebondir sur la question des réseaux sociaux qu'on a déjà pu aborder, mais comment est-ce que ces plateformes, selon vous, elles influencent la manière dont les jeunes consomment l'information et quels sont les principaux risques associés finalement ?
On a pu déjà un petit peu l'évoquer, mais peut-être la façon dont ça se fait. Je pense aux algorithmes qui peuvent être intéressants, mais peut-être.
Oui, c'est ça, parce que là, vous pourriez faire une émission complète sur les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement. Le mode des algorithmes va emmener sur un type d'information et va finir par restreindre sur ce type d'information. Il est évident que, en faisant croire qu'on individualise l'information, on se retrouve à avoir, une fois qu'on a liké tout le temps le même style de publication, donc c'est dangereux. Parce que par rapport à l'ouverture d'esprit, et c'est tellement plus confortable d'avoir une information qui va dans votre sens d'opinion. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des intérêts bien évidemment économiques. Alors nous, au collège, c'est compliqué. On essaye d'accompagner au mieux, mais il ne faut pas oublier qu'il est quand même préconisé que les réseaux sociaux ne soient pas utilisés avant 13 ans.
On va peut-être revenir sur la question économique, notamment que vous avez pu aborder, Simon Bertin. Aujourd'hui, une des raisons aussi pour lesquelles l'information fait débat, c'est la question de son indépendance. Alors que 90% des médias français appartiennent à 9 milliardaires, selon vous, quelle place à l'objectivité et à la neutralité on fait dans la diffusion de l'information aujourd'hui ?
Vous parlez en fait des médias traditionnels qui sont dominés par ces grands groupes ou personnalités. Médias traditionnels, je dirais, donc héritiers du papier et médias télévision. Mais en fait, aujourd'hui, il y a aussi une foule en fait d'autres manières de s'informer que.
Oui, mais on peut pas nier le poids des médias traditionnels, notamment les médias télévisés, qui sont quand même très regardé par les Français.
Bah de moins en moins, en fait. Hein, de moins en moins. Donc, je pense que ça, c'est aussi un prisme, peut-être aussi des journalistes et du monde des médias, parce que on s'aperçoit aussi qu'il y a plein de manières nouvelles d'exercer le métier de journaliste de façon beaucoup plus indépendante. Et vous avez aujourd'hui tout un tas de médias qui traitent de sujets très très variés et qui n'existent que par Internet. Et puis vous avez des collectifs qui se sont formés comme Street Press. Et donc c'est pour revenir à ce que je disais avant, c'est important en fait d'aller vers l'information.
Si on peut revenir à la question de l'objectivité ou de la neutralité, je suis pas sûre que même les médias qui sont pas traditionnels peuvent se prétendre neutres ou objectifs. Selon vous, quelle place ça a dans l'information ?
Alors, de l'information, elle est toujours éditorialisée. Il faut toujours savoir, en fait, qui nous parle et d'où on nous parle. Donc, la neutralité et l'objectivité du journalisme, c'est une fausse idée, en fait. On va dire que l'éthique journalistique, c'est plutôt en fait de faire un journalisme honnête, c'est-à-dire qui vérifie ses sources et dont on sait très bien d'où on nous parle. Hein. Donc moi, si je m'abonne à tel ou tel journal, c'est parce qu'en fait je sais que je partage les valeurs de ce journal. Si je regarde telle ou telle chaîne de télévision, je fais un choix en tant que consommateur parce que en fait je sais quelles sont les valeurs en fait qui sont portées par cet éditeur de médias.
C'est évident que ça a quelque chose d'historique. Hein. Regardez le J'accuse de Zola dans L'Aurore. L'Aurore était un journal de gauche, donc il était déjà estampillé avec une opinion. On avait d'un côté les anti-Dreyfusards comme L'Aurore et les Dreyfusards en face. Donc l'objectivité, je ne sais pas, historiquement, elle mériterait d'être étudiée. Après, si on revient nous à notre rôle, c'est d'accompagner justement les élèves à trier cette information et au moins qu'ils en soient conscients. Moi, c'est pas la déontologie journalistique, je pense qu'elle existe, qu'elle est importante, qu'ils ont pour vocation à vérifier des sources, contrairement à des influenceurs. Donc c'est là où c'est important d'accompagner nos élèves. Mais après, l'idée, c'est aussi que nos élèves aient leurs propres opinions. Ils ont le droit d'aller vers des médias qui les attirent. Au contraire, ça s'appelle la liberté.
Oui, mais après, ça pose quand même problème sur la façon dont les médias viennent à nous. Vous l'avez répété plusieurs fois, il est important de montrer aux élèves peut-être d'aller vers les médias parce que parfois... justement, ce qu'on a pu rappeler, le poids des algorithmes, ça fait que les médias viennent à nous.
Bien évidemment.
Que c'est
ça...
profilé.
Moi, si je devais résumer, je dirais juste que la mission, l'objectif vis-à-vis de l'élève n'a pas profondément changé. C'est que les outils se sont multipliés. Donc, il y a une forme d'incertitude, nous, côté enseignants, parce qu'on maîtrise des fois moins bien que les élèves. C'est là où les données ont changé. Mais l'idée de l'objectif reste quand même d'éduquer. Donc on essaye de faire bien évidemment au mieux, avec des craintes, vous les avez signalées tout à l'heure, mais l'idée, c'est oui, les outils se multiplient, et l'une des missions du CLEMI, c'est d'accompagner par rapport à ces nouveaux outils.
D'ailleurs, l'éducation, elle passe aussi par le développement du regard critique, finalement, vis-à-vis de l'information. Pourquoi est-ce que c'est si important, justement, de l'apprendre aux élèves, et comment est-ce que vous y prenez ?
Alors, c'est une question bien complexe, hein, parce que on ne peut pas enseigner l'esprit critique, ça ne s'enseigne pas. Donc, en fait, on va faire travailler un ensemble de compétences pour que les élèves, peu à peu, construisent leur propre esprit critique. Donc, ça va être dans toutes les disciplines, en favorisant le débat, les échanges, en favorisant justement la connaissance de la diversité, en fait, des sources et des ressources d'information et de formation. Ça va être aussi en organisant des rencontres, des visites donc l'éducation aux médias et à l'information participe à la construction de l'esprit critique avec aux côtés de toutes les disciplines scolaires en fait.
Peut-être Simon Bertin, vous souhaitez donner
votre... Ouais, je vais me répéter et un peu répéter ce qui vient d'être dit, c'est de mettre les élèves en pratique. en pratique, en créant, donc, que ce soit le petit journal scolaire, que ce soit un article, que ce soit avec les web radios dont ont été dotés une dizaine de collèges de la Nièvre, c'est de passer par le concret et mettre les élèves face à eux-mêmes, vérifier. Après, l'esprit critique, c'est j'espère, là c'est l'enseignant de base qui va parler, mais que l'élève fasse sa propre esprit critique. L'idée, c'est pas que l'élève pense comme moi.
Pour conclure l'émission, je voulais vous demander votre avis sur la semaine de la presse actuellement et sur la façon dont vous souhaitez que ces actions elles évoluent. Est-ce que vous avez des projets au sein du Clémy?
Alors la semaine de la presse et des médias à l'école, en fait, je dirais c'est la face émergée de l'iceberg de l'éducation aux médias et à l'information. C'est un moment en fait vitrine de tout ce qui peut être fait, de tout ce qui peut se faire. Et en général, où les médias mettent aussi du coup leurs actions dans ce domaine à l'honneur, hein. Mais il y a bien d'autres projets qui sont menés tout au long des années. Et donc le prochain événement là, au mois d'avril, ça va être pour le Clémy académique la finalisation du concours de médias scolaires Mediatics. Il va y avoir un jury et on va récompenser les meilleurs médias, écoles, collèges, lycées, dans les catégories journaux imprimés, radio ou vidéo, hein, donc ou TV. Donc ça, c'est un autre temps fort du Clémy. Il y a d'autres concours qui sont organisés, comme notamment le concours Zéro Cliché pour déconstruire les stéréotypes par la production médiatique. D'ailleurs, le concours est encore ouvert là, juste encore quelques jours jusqu'au début avril, donc on peut encore participer. Puis beaucoup d'autres activités aussi au niveau académique, comme la journée qu'on est en train de vivre là, qui est donc la conclusion aussi du dispositif BFC Reporter, Bourgogne-Franche-Comté Reporter, organisé par le Conseil régional, qui permet à 10 classes de lycées de la région de s'initier aussi à l'écriture journalistique et de réaliser un magazine. Ben, beaucoup de projets qui sont moins visibles, qui sont réalisés aussi au quotidien dans les établissements scolaires, dans les classes.
Peut-être, Simon, vous souhaitez ajouter quelques mots
Ben voilà, moi je pense que je reviens sur cet aspect du concret. Beaucoup d'enseignants font, il y a beaucoup de choses qui sont mises. Donc l'avantage du Clémy à travers la semaine de la presse et des médias à l'école, mais à travers des concours médiatiques, etc. L'avantage, c'est qu'on met en avant le travail que fait beaucoup d'enseignants. Et l'idée, c'est de les accompagner. Et vous demandiez des choses en plus. Je sais pas s'il faut vraiment mettre faire plus de choses. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, c'est de
peut-être
réussir
les valoriser.
Les valoriser. Après, vous savez que le monde de la communication n'est pas simple. Il y a beaucoup d'informations, on a traité. Après, réussir à vivre au milieu de tout ça, je pense qu'on y arrive et surtout, on arrive à travers ça. Vraiment, moi, je parle de mon expérience et de l'expérience de mes élèves à produire des belles choses. Et c'est quand même encore une satisfaction de pouvoir produire et être acteur de son information pour devenir soi-même un citoyen et avoir une analyse critique, comme vous lisiez, de l'information et des médias.
Eh bien, on vous remercie, Cécile Dejoie et Simon Bertin, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions à l'occasion de cette 36e édition de la Semaine de la Presse et des Médias. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission.
Merci pour votre invitation, au revoir.
Merci beaucoup.